à toutes et bonjour à tous. Vous aviez toujours voulu le savoir, mais vous n'osiez pas le demander. Dans une heure pourtant, vous pourrez sans crainte répondre à la question « Virgile peut-il nous sauver ?»
Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Avec une émission proposée aujourd'hui par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Juliette Marcaillou, Clémentine Boulard, Jean-Christophe Francis et Jean-Guilain Meige. Il ne s'agira pas, dans l'heure qui vient, de répondre uniquement à la question « Virgile peut-il nous sauver ?» car derrière cette question, on sans doute s'en cache bien d'autres, moins ambitieuses mais pas moins intéressantes, telles que « Comment Virgile nous apprend-il à traverser les crises ?» ou même tout simplement « Qui était Virgile et que nous a-t-il transmis ?» Ce que l'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'il est au fondement de la culture européenne et on peut faire le pari que même ceux qui ne l'ont pas lu, s'ils ont grandi sur ce continent, en sont tout de même un peu imprégnés. Ou alors, pour reprendre l'expression de T.S. Eliot dans l'une de ses célèbres conférences, il est notre classique, Virgile, le classique de toute l'Europe.
To the position of guide through the first two stages of the Divine Comedy. Everyone knows that Virgil became, in the Middle Ages, an almost mythical figure. First as a prophet of the Incarnation, and then as a fabulous magician. Poem could be employed for purposes of divination.
Virgile, magicien, une figure presque mythique, disait donc T.S. Eliot. Bonjour à vous, Andrea Marcolongo.
Bonjour.
Vous venez de publier cette année un essai intitulé « L'art de résister, comment l'Énéide nous apprend à traverser une crise ». C'est aux éditions Gallimard. Est-ce que vous voulez dire par là que Virgile est notre contemporain ?
J'adorais la définition de Virgile, le classique de toute l'Europe. C'est exactement ça. Depuis que l'Énéide a été publié contre la volonté de Virgile, on ne peut pas oublier que Virgile l'avait bien demandé dans son testament de brûler l'Énéide.
Pourquoi voulait-il brûler ce
Parce que peut-être qu'il n'était pas satisfait du résultat poétique, il était mal à l'aise avec Auguste, on ne sait pas vraiment. Mais on sait que l'Énéide était bien publié, et alors à partir de ces moments-là, jusqu'aujourd'hui, c'est le plus long best-seller pagan, laïque, de l'histoire de la littérature occidentale, beaucoup plus que Homère, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant le Moyen-Âge, le grec a disparu, la connaissance du grec a disparu en Europe, l'Énéide non, Virgile était, et ça reste encore aujourd'hui, le manuel d'apprentissage de chaque être humain européen.
Bonjour à vous Frédéric Boyer.
Bonjour.
Vous avez proposé une nouvelle traduction des Géorgiques de Virgile sous le titre « Le souci de la Terre » en 2019. Vous aussi, vous le lisez à l'aune des crises qui nous traversent aujourd'hui, Virgile ?
En tout cas, c'est ce que je propose dans cette nouvelle traduction, oui. Voilà. Je pense que ça sert à ça d'ailleurs de faire des nouvelles traductions.
Oui, avec des nouveaux titres, Le souci de la Terre,
oui,
de Géorgie. On en a peut-être déjà beaucoup parlé, hein. Vous en avez peut-être déjà beaucoup
mais j'aime
parlé.
J'aime bien faire des nouveaux titres. Enfin, je vois pas pourquoi un titre se soustrairait à la traduction. Voilà, à partir où on traduit une œuvre, il faut se poser la question de traduire le titre aussi. Ouais.
Oui. Donc c'est un livre qui traite des travaux des champs, de la culture de la vigne, de l'élevage. Et c'est vrai qu'à l'heure de la crise écologique, c'est peut-être de la terre qu'on attend le salut. Est-ce que là, il y a quelque chose qui fait un pont jusqu'à aujourd'hui ?
Oui, enfin alors bon, c'est plus compliqué que ça quand même, parce que sinon après c'est un peu facile de dire ça. Mais j'ai voulu retraduire ce texte parce qu'effectivement... C'est un texte très connu aussi, moins que l'Énéide, mais c'est un texte qui a eu une grande importance. Et déjà à l'époque, d'ailleurs, c'est un texte qui a eu une grande importance, qui a été lu, qui a été... Et c'est un texte qui avait aussi une sorte de mission politique à l'époque, hein, de remobiliser un peu tout le monde autour de justement des travaux agricoles après des décennies de guerre civile, mais aussi plus profondément d'exprimer une sorte d'idéal... Alors à la fois politique, autour du travail de la terre, et en même temps, ce qui est magnifique avec Virgile, c'est qu'il va détourner ça et il va proposer quelque chose de très personnel autour de ce qu'on appelle en latin l'osium. Donc c'est temps de désœuvrement où l'on se retire des affaires, que ce soit commerciales ou militaires, et où justement on rentre dans un autre temps, à la fois d'études, de méditation, de contemplation.
Et aujourd'hui, il est très difficile à atteindre cet osium.
Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué, effectivement, sauf en temps de confinement. On aurait pu d'ailleurs dire que le confinement était un temps d'osium, ça aurait peut-être été plus facile pour tout le monde.
C'était pas pour tout le monde, en effet, voilà. L'osium, et en particulier pas pour les caissières. Andrea Marcolongo, ce livre, l'Énéide, parce que c'est plutôt sur celui-là que vous vous êtes penché. C'est un livre qui vous a embêté quand vous étiez enfant, adolescent, et même peut-être plus tard à l'université.
C'est justement pour ça que j'ai écrit ces livres. Moi, je suis italien, comme mon petit accent le déclare. Et selon Virgile, c'était aîné à fonder l'Italie. Bref, l'Empire des Roms. En Italie, on étudie Virgile, l'Énéide au lycée, puis dans mon cas, même à l'université, quand j'ai fait lettres classiques. Mais j'avais toujours du mal à, je connaissais évidemment l'Énéide, les poèmes de Virgile, mais j'avais du mal à le sentir, à le faire vraiment mien, à me plonger dans la profondeur du vers poétique. Et alors là, après avoir écrit un livre sur mon attachement, mon amour, je dirais, pour la langue grecque, je me suis dit, là, c'est bon la peine de voir si, pourquoi je n'arrive pas vraiment à sentir Virgile. Et alors, j'ai commencé à écrire jusqu'à quand le confinement nous a tous renfermés à la maison. Et moi, j'étais là à Paris. Et je me suis retrouvée, j'ai vraiment passé habité pour 3 mois dans l'Énéide. Je n'ai fait que ça, j'ai eu l'honneur d'habiter la poésie de Virgile pour 3 mois. Et là, je me suis bien rendu compte que la raison pour laquelle moi, j'avais du mal à le sentir avant ces crises sanitaires, comme on dit, c'est parce que l'Énéide, ce n'est pas un poème, moi je dirais, pour les moments historiques où tout va bien. C'est vraiment le manuel qui nous apprend à traverser une crise, à rester debout quand tout s'effondre.
Donc il faut lire l'Énéide quand ça va pas bien, parce que quand tout va bien, on trouve que c'est un peu trop fade, c'est ça? Il n'y a pas assez de guerre, il n'y a pas assez d'action.
On dirait qu'on n'est pas assez épique comme le poème d'Homère. Il n'y a pas aîné, évidemment, il n'est pas un héros comme Achille, un héros épique aussi tellement magnifique comme Ulysse. Il est plutôt humain, il est plutôt un héros comme, je dirais, l'étranger de Camus. Et alors là, quand tout s'effondre, voilà que l'Énéide, ça devient vraiment le manuel qui nous apprend à trouver du sens dans la douleur, et à rester debout avec dignité, et surtout à trouver un sens collectif à une tragédie, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Énéide, c'est d'abord, ce n'est pas l'histoire d'un seul homme, comme dans le cas d'Odyssée, l'histoire d'Ulysse, mais c'est vraiment l'histoire d'un peuple.
Alors quel serait ce sens-là qui vous a aidé à traverser la crise du confinement et puis qui vous aide à traverser la crise dans lesquelles nous sommes encore aujourd'hui? S'il devait y avoir un message et si on pouvait un peu bêtement sans doute le résumer, qu'est-ce que ce serait, Andrea Marcolongo?
Moi je dirais que c'est que l'Énéide est né et nous apprend. Tout d'abord, c'est vraiment la capacité, la force, la dignité qu'il faut pour traverser l'inéluctable, pour ne pas se tomber, pour ne pas s'affondre, pour ne pas, pas céder, mais pour continuer à résister, à avancer, pour construire. Aîné, il a son passé, sa vie entière, que c'est la ville de Troie perdue dans les flammes, mais il ne sait même pas comment arriver à Rome, mais il sait tout d'abord qu'il doit continuer, qu'il ne peut pas...
Donc il nous enseigne la persévérance pour commencer.
Voilà, et moi je dirais le sérieux, il nous enseigne l'honneur, il nous enseigne l'idée de la transmission. Aîné ne parle pas à la recherche ni d'une curiosité intellectuelle individuelle comme Ulysse, ni de richesses, ni d'un empire. S'il part, est vraiment pour construire, bien reconstruire un avenir pour son fils et après son fils, tout le peuple jusqu'à nous.
Mes amis, nous savions ce que c'est que l'épreuve. Ô vous qui en avez supporté de plus dur, à nos présents malheurs aussi, Dieu mettra fin. Vous avez affronté la rage de Scylla, ses écueils mugissants, les rochers des cyclopes, rappelez vos esprits, chassez crainte et tristesse. Ces souvenirs, peut-être un jour, vous seront doux. À travers les hasards, à travers les périls, nous gagnons le Latium, où les destins nous montrent de paisibles séjours. C'est là qu'il nous permette de voir ressusciter le royaume de Troie. Tenez bon, gardez-vous pour le temps du bonheur.
Tenez bon, nous dit Virgile dans cet extrait de l'Énéide lu par Noémie Ndiaye. Et à tenir bon, Virgile peut en effet nous aider. C'est peut-être ce qui vous est arrivé aussi, Frédéric Boyer, quand vous avez retraduit Virgile. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous a peut-être pas sauvé, mais qu'il vous a aidé?
Oui, parce que c'était une traduction que j'ai entamée en 2018, à un moment personnel très difficile de deuil et de perte, de double deuil. Donc c'est en fait, j'avais depuis longtemps l'idée de retraduire les Géorgiques pour montrer justement que derrière l'œuvre de commande et l'œuvre un peu scolairement connue se cachait quelque chose d'autre et de beaucoup plus passionnant, c'est-à-dire l'œuvre d'un poète qui va détourner tout ça pour faire attention, pour attirer notre attention sur les détails de la vie, de la création, et avec beaucoup d'humour aussi, parce que il y a beaucoup d'humour chez Virgile, en tout cas dans les Géorgiques, je trouve que c'est voilà. Et donc
ça nous ramène à un concret.
Ah bah oui, c'est-à-dire qu'il va, en fait, il détourne le grand projet de faire une sorte de d'œuvre agronomique comme ça existait déjà dans l'Antiquité. Il y avait beaucoup de manuels d'agronomie de ce qu'on appelait la res rustica, en latin, de la chose rustique, la chose agricole. Et en fait, il va s'en servir pour raconter une vision du monde et même une vision de l'histoire, puisque dans ce texte, il arrive à parler philosophiquement de la mort, de la vie, de la guerre, des guerres civiles, des cataclysmes, des tsunamis, des tempêtes, des épidémies. Enfin, et ça devient tout un panorama de l'existence à la fois humaine et historique. Et quand je l'ai relu, effectivement, pour le traduire à ce moment-là, difficile, dans le chagrin, il y a quelque chose qui m'est apparu. C'est que tout, et alors, finalement, ça rejoint l'Énéide aussi, mais tout ce livre est écrit pour dire, c'est à la fin du livre, dans le livre 4, le chapitre sur les abeilles, il y a un vers, très beau vers, qui dit « Nec morti esse locum », c'est-à-dire « il n'y a pas de lieu pour dans la mort, il n'y a pas de lieu dans la mort, voilà. Il n'y a pas de lieu pour la mort, il n'y a pas de lieu à la mort. » Et c'est un peu la déclaration de foi poétique de ce livre. C'est-à-dire le seul lieu, c'est le lieu sur la terre que nous habitons, la terre avec laquelle nous devons faire, que nous devons travailler, et dans la mort, il n'y a pas de lieu. Il va jusqu'à mettre la légende d'Orphée à la fin. D'ailleurs, en quelque sorte, il remet au goût du jour cette légende qu'on avait oubliée dans l'Antiquité. C'est lui qui la met au goût du jour dans les années 30 avant notre ère dans ce livre-là, pour justement montrer l'inanité, la vanité de vouloir aller chercher qui que ce soit dans un royaume qui n'existe en fait pas. C'est le seul royaume, c'est le nôtre.
Voilà. Vous le voyez comme ça aussi, Andrea Marcolongo, une œuvre de Virgile qui est une œuvre qui nous dit de vivre la vie que nous avons tant que nous l'avons.
Voilà, c'est justement ça, de la vivre, pas simplement de la vie, mais de la vivre avec dignité, je dirais. Aîné, comme je disais tout à l'heure, il m'a vraiment appris la même chose que vous, c'est-à-dire que face à l'amant, Aîné, il a tout perdu, il a perdu sa première femme, il a perdu son royaume, sa vie. Il ne veut pas s'abandonner, il veut continuer, il veut reconstruire s'il faut, et toujours avec cet respect de soi-même, ce respect de l'autre. Et la raison pour laquelle Aîné n'a aucun problème à dire la souffrance, ça fait mal, souffrir, c'est un scandale, la mort c'est le suprême scandale, mais pourtant on ne peut pas céder, il faut continuer et il faut reconstruire, il faut aller jusqu'au bout.
Alors, il y a aussi autre chose avec vous, Andrea Marcolongo, c'est le rapport avec votre pays, l'Italie, parce que c'est évidemment l'Énéide, un récit qui raconte, dit-on, la fondation de Rome. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, on aura peut-être le temps d'y revenir. Mais est-ce que vous avez cherché un petit peu votre pays aussi, en travaillant sur Virgile et en travaillant sur l'Énéide ?
C'est une très très belle question parce que et je vous répondrai que si. C'est pour ça le livre effectivement c'est dédicacé à l'Italie, à mon pays, et comme je vis et j'écris ici en France. Mais en plus il fait que je dois avouer que voilà, je donne l'idée d'être énormément érudite, de passer les confinements en compagnie de Virgile, mais c'était pas forcément si facile pour moi. Dès que j'ai réouvert l'Énéide, je me suis rendu compte de n'avoir rien compris dans ma connaissance scolaire. Que j'avais plein de questions à poser, pas simplement à Virgile, mais surtout d'abord à moi-même. Et même si je venais d'Italie, qui encore une fois, si on lit Virgile, c'est Énée qui l'a fondé Rome, nulle part en Italie il y a un grand monument en honneur de Virgile ni d'Énée. Énée, il n'est pas surtout pas le héros national, personne, il n'y a pas des enfants qui rêvent de devenir comme Énée. Donc c'était même intéressant de ces complexes tout italiens qu'on a par rapport à Virgile.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Frédéric Boyer, si c'est en effet l'objet de l'Énéide que de raconter la fondation de Rome, ou est-ce que c'est un petit peu autre chose? Est-ce qu'on se trompe d'ailleurs quand on dit que c'est Énée qui est à l'origine de la légende de la fondation de Rome? Évidemment, ça reste de l'ordre de la légende.
Bien sûr, ça reste de l'ordre de la légende, mais c'est la force, c'est-à-dire... Tel que je vois les choses sur l'Énéide, et c'est effectivement l'énigme de cette dernière volonté de Virgile de ne pas finalement assumer la publication entre guillemets de ce livre-là qu'il n'avait probablement pas fini, d'ailleurs pas achevé, hein, donc c'était peut-être aussi pour ça, mais c'est un acte très puissant culturel, littéraire, qui explique aussi la postérité de son œuvre et de ce personnage. C'est-à-dire, c'est l'acte vraiment pour moi de bascule, de transmission, où effectivement un auteur va s'emparer de la nécessité d'un texte fondateur pour essayer de raconter un récit national ou voilà,
avec la conscience qu'il est en train de raconter justement de poser une pierre,
voilà,
à un récit national,
à ce récit bon, que j'appelle récit national, c'est un peu plus compliqué, mais enfin bon, c'est pour faire comprendre, et aussi parce que il regarde la culture d'où l'Empire romain est issu, qui est la culture hellénistique, voilà, et que c'est cette compétition en quelque sorte avec la culture hellénistique aussi dans laquelle Virgile va vraiment s'engager de façon, voilà, pas seulement avec l'Énéide d'ailleurs, avec ce texte-là plutôt mineur qui était les Géorgiques, il reprend un projet d'Hésiode, il reprend, et l'idée donc est de raconter ce grand récit, alors comme l'Iliade et l'Odyssée, et de quelque sorte de faire littérairement un acte de fondation, et peut-être c'était énorme. Alors il y est arrivé, je pense qu'il y est arrivé comme toujours, il y est arrivé sans le savoir, et ce qu'il a fait n'est pas tout à fait, je pense, ce qu'il devait faire, mais c'est aussi, puisque ça m'intéresse, une immense question, ça pose la grande question de la traduction au sens large, c'est-à-dire effectivement il faut traduire une culture qui nous a précédé ou une culture qui nous a porté, qui nous a influencé, il faut la retraduire dans sa propre langue, dans ses propres schémas légendaires, mythologiques, littéraires, pour essayer de créer quelque chose de neuf. Voilà, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié aujourd'hui, c'est-à-dire notre culture et notre civilisation n'est plus du tout dans ce travail-là.
Donc pour reformuler les choses, être sûr qu'on a bien saisi, il y a l'Iliade et l'Odyssée qui fonderaient un petit peu la légende de la Grèce antique, et Virgile dit il faut un récit fondateur qui soit aussi fort, aussi grand, et qui fasse de Rome, si ce n'est l'égal, au moins l'égal, si ce n'est la supérieure à Athènes. C'est ça le projet de Virgile, Andrea Marcolongo?
Oui, c'est justement ça, c'est vraiment un acte de fondation poétique. Évidemment, Rome existait déjà à l'époque de Virgile, les légendes d'Énée et les légendes dont il parle dans l'Énée existaient déjà. C'est toute la tradition grecque qui arrive à Rome, mais c'est Virgile qui donne vraiment il fait du récit en romain. Et c'est exactement ce qui serait envisageable aujourd'hui, très nécessaire par rapport à l'Union européenne, surtout aujourd'hui.
Il faudrait un grand texte pour fonder
un grand récit poétique. Voilà, parce
européenne.
Que l'Europe existe, mais c'est son récit qui manque. Et voilà que ça laisse de l'espace aux peurs, aux angoisses nationalistes.
Mais à l'époque, il y avait quand même un empereur, Auguste, et ce livre a été commandé d'une certaine manière à Virgile par Auguste. Donc il est lié déjà au pouvoir politique, et c'est ça aussi qui le légitime finalement dans son action.
Oui, j'adore ces questions, j'adore les répondre. Oui, effectivement, oui, l'Énéide, c'est une commande. C'est Virgile qui était plus ou moins chargé par Auguste d'écrire ses poèmes nationaux, mais il ne faut pas penser qu'alors Virgile, c'était un employé d'Auguste, et en revanche, je ne sais pas qu'Homer, il était un esprit tellement libre. Toujours un récit national, c'est l'expression d'une société dominante. Et alors, simplement, dans le cas d'Homer, on n'a pas les noms écrits en bas de qui il était commissionné, l'Iliade et l'Odyssée. En général, c'est romain. Le roman national existe vraiment pour se faire charge, prendre charge des valeurs partagées par la collectivité.
Est-ce que vous diriez, Frédéric Boyer, que Virgile était un poète d'État, étant donné que c'est un peu sur commande, même si pas tout à fait, même si ça reste un très grand poète, qu'il écrit l'Énéide ?
Oui, alors après, il faut comprendre aussi, on est dans l'Antiquité, et c'est un peu, si vous voulez, aujourd'hui, pour nous, c'est très étrange, mais le poète avait droit de cité politique. C'est-à-dire, c'est pas seulement un mercenaire qui se donne à un empereur qui lui dit, bon, maintenant, tu m'écris ça parce qu'il faut me raconter un truc. C'est quand même un peu plus puissant. C'est-à-dire que le poète avait droit de cité politique.
Et
il avait un rôle, il avait une fonction. Il faut imaginer que là, pour Joséphine Baker, là, tout à l'heure, c'est pas Macron qui parlerait à Rome, ça serait Virgile. Voilà, ça serait Virgile qui ferait le roman de Joséphine Baker.
Vous n'avez pas cité un nom d'un contemporain, vous n'avez pas osé.
Non. Mais, et en fait, effectivement, et donc, le politique, au sens large, prenez la littérature d'une certaine façon au sérieux. Et pour les Géorgiques, c'est pareil, c'est une œuvre de commande par Octave, donc qui va devenir Auguste après, qui deviendra empereur, qui était et c'était important pour un homme important comme Octave, qui était sénateur, qui était général, qui était en marche pour le pouvoir, de s'entourer de poètes, d'écrivains, pour c'est pas simplement pour qu'ils racontent leur gloire, mais c'est effectivement pour construire quelque chose, un discours.
Virgile, on le voit un peu comme un faux Homer. Il est tout à fait erroné, je crois. C'était foncièrement différent. Mais Virgile a fait, je crois, enfin, tout le monde le sait, une chose étonnante. Il écrit une épopée qui était en même temps un poème très délicat, très nuancé. Tout à fait le contraire d'Homer, non ? Il écrit que l'Énéide ne saurait pas être conçu sans l'Iliade et l'Odyssée. Mais c'est tout différent.
Sans oser le demander sur France Culture, nous parlons de Virgile avec Andrea Marcolongo et Frédéric Boyer et à l'instant la voix en archive de Borges qui parlait du rapport entre Virgile et Homère, entre l'Énéide et l'Iliade et l'Odyssée. Pourquoi faire ce rapport entre les deux? Est-ce que c'est un même récit réécrit? Est-ce que c'est un récit dont on a pris certains moments pour le réécrire? Est-ce que finalement on réécrivait toujours et tous les poètes réécrivaient toujours une sorte d'Iliade et l'Odyssée qui est une sorte de récit un petit peu mythique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça, Andrea Marcolongo?
Oui, c'est exactement ça. Parfois, on a l'impression d'assister à une espèce de derby entre Virgile et Homère. Ben, il ne faut pas oublier qu'entre l'écriture de l'Énéide et l'époque d'Homère, qui c'était tout d'abord, n'était pas, Homère n'a pas écrit un poème, c'était un poème oral à l'époque. Ça passe quelque chose comme 7-8 siècles.
Tout le monde se raconte cette histoire à la veillée.
Voilà, c'est un peu la même distance qu'il y a aujourd'hui entre nous et Dante. Donc c'est une distance temporelle énorme. La société a beaucoup changé. Bah, la situation, c'est très différent. C'est vrai, la matière mythique, on peut dire que c'est à peu près la même, c'est le même cycle. Bah, les nécessités du public sont tout à fait différentes. Je suis absolument d'accord avec quoi Frédéric Boyer disait tout à l'heure par rapport au rapport entre Virgile et Auguste et le rôle du poète. Mais il faut même rajouter que même le public, il était tout à fait fait habitué pour le public romain, c'était absolument normal avoir Virgile, un poète qui racontait le programme d'Auguste, un peu comme si aujourd'hui, pendant la campagne électorale française, il y aura un candidat politique, il partage son programme avec un poème de 12 qu'un chante en vers.
Qu'est-ce que Virgile reprend à Homère? En quoi est-ce qu'il s'en différencie, Frédéric Boyer?
Non, mais ce qu'a dit Borges là tout à l'heure, ce qu'il disait, c'était intéressant. C'est-à-dire, il ne reprend pas au sens strict, puisqu'il prend un personnage, il reprend une histoire, et effectivement, et c'est ce qu'a dit aussi Andréa très bien tout à l'heure, il va écrire un autre poème. Hein, il écrit pas véritablement une odyssée en fait au sens antique, enfin au sens antique avant lui. Il arrive effectivement à inventer, à fonder même un vers poétique hein, qu'il avait déjà engagé, mais par contre, ce qu'il reprend, c'est cette ambition. C'est cette ambition de raconter quelque chose qui va pouvoir fédérer une histoire commune.
Ça aurait été impossible de se détacher plus radicalement de l'Iliade et de l'Odyssée. À l'époque, ça n'aurait pas pu se faire pour fonder un récit qui soit totalement différent et sans référence à l'Iliade et l'Odyssée.
Ça n'aurait pas pu se faire parce que c'est quelque chose aussi peut-être qu'on a perdu, nous, les très modernes. Là. C'est que la littérature, dans l'Antiquité, c'est un acte d'emprunt, c'est un acte de détournement, c'est un acte même de,
ça peut pas être autre chose.
De parodie au sens strict, c'est-à-dire on écrit des chants à partir de d'autres chants et voilà. Et c'est difficilement autre chose, voilà, puisqu'il y a une notion d'autorité, c'est-à-dire les œuvres qui nous procèdent font autorité, et c'est en s'exerçant avec elles qu'on invente autre chose, voilà. Donc finalement, l'acte de Virgile là, il est tout à fait conforme à la question de la littérature antique.
Alors parlons un petit peu de l'homme qu'a été Virgile, un homme du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il meurt le 21 septembre de l'an 19 avant notre ère, à l'âge de 51 ans. Il meurt à Brindisi, au retour d'un voyage en Grèce où il avait contracté la malaria. Quel type d'enfance, Andrea Marcolongo, a vécu Virgile?
Moi, je n'écris pas l'art de résister pour défendre né par rapport, je ne sais pas, Ulysse ou Achille, mais une seule chose, je suis absolument certaine, c'est de la grandeur de Virgile, qu'il était vraiment un grand poète.
De l'homme, Virgile.
De l'homme et du poète. Virgile, il était né près de Mantova, qui est une ville de l'Italie du Nord. À l'époque, c'était partie de la Gallia, donc vraiment très loin de Rome. Il était une distance absolument énorme, celle qui séparait le petit village de Mantova, où Virgile est né, jusqu'à la grande capitale, à Roma, Caput Mundi. Il était issu d'une famille de paysans.
De potiers aussi.
Voilà, de potiers qu'il avait accumulé une toute petite richesse. Et aujourd'hui, on dirait des nouveaux riches qu'il avait tout fait, essayer pour garantir au petit Virgile le meilleur, c'est tout possible. Virgile a eu la possibilité alors d'étudier à Milan tout d'abord, et finalement, il était envoyé à Rome pour essayer d'emprunter la carrière de l'oratoria en tant qu'orateur, que c'était à l'époque voilà, la carrière plus en vogue, un peu comme aujourd'hui, de faire des études de business.
Ah oui.
Mais dans le cas de Virgile, c'est...
Il faut bien le présenter comme ça. Hein.
Voilà. Mais dans le cas de Virgile, c'était un échec. On ne sait pas...
Oui, parce que alors, vous racontez quand même ça, il faut le dire aussi, c'est peut-être pour ça aussi que Virgile peut nous sauver d'une certaine manière, c'est que vous racontez comment Virgile, quand il commence à faire un discours à cet âge-là, il est encore jeune, mais en fait, il se trouve complètement bloqué au fond, il n'y arrive pas du tout. Et donc, ce grand homme qui est Virgile est aussi un être désemparé à certains moments.
Oui, mais là, à l'époque, il n'était pas encore un grand homme, c'était simplement un jeune homme.
Ce futur grand homme, alors.
Il vient de la banlieue de l'Empire, il se retrouve à Rome à faire des études en tant qu'orateur qu'il ne veut pas faire parce qu'il rêve déjà de devenir poète. Il n'arrive même pas presque à parler. Et alors, ce sont ses parents à lui qui décident de l'interrompre, de payer les études. Et voilà. Et quand Virgile lui annonce qu'il a l'intention de devenir poète, je pense que même aujourd'hui, pas forcément tous les parents sont ravis si leur enfant lui dit de devenir, qu'il veut devenir un poète. Mais finalement, ça, c'est le moment où Virgile commence à se prendre en sérieux en tant qu'auteur.
Frédéric Boyer, comment vous le voyez, ce jeune homme, Virgile, comment vous l'imaginez? Est-ce que c'est important d'ailleurs de l'avoir en tête pour traduire, par exemple, comme vous l'avez fait, les Géorgiques?
Oui, enfin, en tout cas, forcément, on s'intéresse à lui, même si c'est pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il va s'intéresser, en voulant devenir poète, il va manifester quand même, je pense, parce qu'on en fait quelqu'un de très important, de très. Mais en fait. Je trouve que c'est quelqu'un, et dans sa vie et dans son œuvre, qui va manifester un esprit, alors ça rejoint ce que dit Andrea, mais peut-être à un autre niveau, un esprit de résistance, et même un esprit de dissidence.
De résistance à quoi ?
De résistance, justement, aux fonctions obligées. Alors,
aux parents ?
C'est aux parents peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas. Et il va essayer de naviguer entre ça, parce qu'il faut bien aussi réussir et vivre. Donc, et puis, parce qu'en tant que poète, il va très vite être reconnu, donc il va avoir du succès. On va lire dans tous les théâtres ses poèmes. Il sera convoqué. Mais il connaîtra aussi des ennuis pendant les années de guerre civile. Il saura pas toujours avec qui se mettre et être protégé, ne serait-ce que par exemple dans les Géorgiques. La première version des Géorgiques se terminait sur un éloge d'un grand préfet en Égypte qui va tomber en disgrâce sous Octave et Virgile devra réécrire la fin, et on voit bien donc qu'il cherche un peu avec qui se mettre. Il ira en quelque sorte en exil à Naples, et il va s'intéresser effectivement à la contemplation de la nature, comme ça. Il sera très présent. Il écrit les bucoliques, etc. Et donc il sera aussi, c'est une force un peu de dissidence par rapport peut-être à. Et il va toujours cultiver ça, et même à la fin des Géorgies, quelque chose de très très beau. Finalement, il dit voilà, moi je serai le poète qui reste sous les arbres et à faire des chansons et à faire des poèmes, pendant que toi, César, alors que tout ce texte est un éloge à Octave qui devient César, enfin qui devient le César. Et lui, pendant que toi, César, tu fais tes conquêtes, etc., moi, je serai tranquille à l'ombre des hêtres et je ferai des chansons de berger. Voilà.
Alors, je vais vous laisser, Frédéric Boyer, choisir un petit extrait à nous lire du Souci de la Terre, donc votre traduction des Géorgiques. Pendant ce temps-là, je vais demander à Andrea Marcolongo de nous dire un mot sur l'œuvre de Virgile. Il y a les bucoliques, les Géorgiques, l'Énéide. Et puis il y a encore d'autres choses, mais comment est-ce qu'on peut la présenter un petit peu brièvement, cette œuvre, pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas?
Oui, il ne faut même pas oublier que Virgile, la vie de Virgile, c'est une espèce de résistance à ce qui l'entoure, mais même à lui-même, parce que quand il écrit ses œuvres, on est en plein guerre civile. Alors la réalité politique des Roms et de l'Empire, vraiment, elle est en train d'envahir la vie privée et poétique de Virgile.
Et ça passe dans le texte, selon vous ?
Ça passe très fortement dans le texte, qui sont tous ces textes, notamment ces trois œuvres principales, où qu'on peut lire sur différents niveaux. Il y a toujours un niveau très lié à la contemporanéité, à l'actualité. Les Géorgiques sont même liés au fait qu'il y avait l'expropriation des terres dans sa région natale, Mantova, et tout ça, à ce type de nostalgie.
Donc la terre est très importante, et on parle de la terre, quitte à en parler d'une manière qui est plus poétique qu'autre chose, enfin qui est avant tout même poétique.
Voilà, si c'est les Géorgiques, ils parlent de la terre et de toute la dureté qu'il faut avoir pour la soumettre. En revanche, les bucoliques sont une espèce de chant de nostalgie vers la terre, la Virgile. Il habite la grande métropole du monde, la Caput Mundi, Rome. Il a une espèce de nostalgie pour la terre et la campagne, là où il est né et où il aimerait bien revenir. Et finalement, après, il y a l'Énéide, qui c'est vraiment le roman national.
Donc, est-ce qu'on peut, Frédéric Boyer, faire, comme on le fait avec les écrivains d'aujourd'hui, une analyse de l'évolution d'un ouvrage, d'une œuvre à l'autre de Virgile, ou est-ce que ça se présente pas comme ça ?
Oui, bien sûr, on peut, je pense, effectivement, même entre les bucoliques et les géorgiques, il y a une évolution. Et d'ailleurs, il fait un petit clin d'œil à la fin des géorgiques et il renvoie aux bucoliques, mais il y a une évolution. Et effectivement, cette œuvre finale, qu'il n'a pas assumé jusqu'au bout puisqu'il est mort trop tôt, qu'est l'Énéide, c'est aussi comme s'il était conduit à quelque chose de qu'il a dépassé, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est quand même fort. Hein, c'est...
Alors vous avez trouvé un passage à nous dire.
Juste un petit passage, c'est la fin du premier livre, et pour montrer justement que d'une commande un peu, comment dire, une commande agronomique en quelque sorte, et politique. Et lui, il va faire, alors là, pour le coup, une sorte d'épopée de la création. Voilà, donc il décrit, il met en garde les paysans contre les tempêtes et il décrit l'arrivée d'une tempête. Vite, les vents se lèvent, la mer agitée gonfle dans les détroits, craquement sec sur les hautes montagnes, les rivages hurlent bouleversés et des frondaisons grandit le murmure. Alors déjà les flots ménagent difficilement les carènes des navires, les oiseaux plongeurs s'envolent de la haute mer pour venir crier sur les rivages, les foulques marines jouent sur le sable sec, le héron déserte les marais familiers et vole au-dessus des nuages. Souvent, toujours dans un vent menaçant, tu verras s'effondrer des étoiles, précipiter du ciel et traverser l'ombre de la nuit en longues traînées de feu pour venir blanchir à l'agonie.
Quand même, le côté agronomique n'est pas très très présent. Je veux dire, on n'apprend pas non plus comment cultiver son champ en lisant le Souci de la Terre.
Il y a des passages où il apprend, en sachant que c'est une espèce de compilation de différentes choses qui, à l'époque, étaient très sérieuses. Bon, aujourd'hui, peuvent nous paraître un peu... Donc, il va croiser cette nécessité de faire une sorte de petit compendium des arts agricoles, et en même temps, à chaque fois, il va, et c'est là qu'on voit l'évolution de ce poète, il va marquer sa trace, en quelque sorte, en élevant le texte vers, je vous dis, quand il évoque les guerres civiles, quand il évoque là une tempête, et jusqu'à la mort des abeilles, qui, ça c'est le clou du livre, puisque ce livre se termine sur l'évocation de la mort des abeilles comme symbole de la fragilité de notre environnement naturel.
Évidemment, extrêmement visionnaire. À quel âge, Andrea Marcolongo, Virgile, se met-il à écrire l'Énéide ?
Ça, ce sont les dernières dizaines d'années de sa vie. Alors, dans sa maturité, moi, dans sa maturité poétique, notamment. Là, c'est Virgile qui voit, au moins au tout début, dans Auguste, Octave, l'espoir de finalement de sortir de ces années de guerre civile et de rétablir la paix. Et moi, je dirais la paix, en général, c'est le type de bien-être que c'est vraiment la chiffre de la romanité. Il sera bientôt dessus. D'un point de vue personnel, il y aura un ami à lui très très cher, que c'est Cornelio Gallo, qui c'est un poète de l'époque dont on ne connaît rien, parce que bientôt Auguste il a décrété la damnatio memoriae, c'est-à-dire l'oubli de sa carrière, de tout ce qu'il a écrit. Mais on ne connaît même pas les raisons pour lesquelles c'était interdit de parler de ces poètes, qui c'était très proche à Virgile. À partir de ce moment-là, Virgile, c'est clair, on le voit, on le sent dans le vers qu'il souffre, il est dessus, il commence à... Mais cette douleur, ça ne devient jamais une amertume. Et alors là, il retrouve plutôt une résistance dans la poésie.
Virgile ébauche l'Énéide en se servant du même système que pour écrire les Géorgiques. Il dicte. Mais d'abord, il dicte en prose et divise sa prose en 12 livres qu'il mettra peu à peu en vers. Toujours avec sa méthode de la promenade. Du canard au poisson, du poisson à l'oiseau, de l'oiseau au bouc, du bouc aux plumes de casque, au bouclier de Mars, au ventre de Didon, aux charniers des vaincus, aux cyprès qui descendent en file indienne vers la mer, aux îles qui bombent leurs échines d'or au-dessus de l'eau noire étincelante d'écume et de reflets. Après 11 ans de travail, il n'est pas satisfait. Il a composé à travers la prose, selon son bon plaisir, sans suivre l'ordre de la construction. Quand une dureté a voulu retarder son élan, il a laissé des passages inachevés. À d'autres, il n'a donné que le support de vers provisoires qu'il mettait, dit-il lui-même, par-ci par-là comme des étais en attendant les vraies colonnes. Malgré cette utilisation parfaite des instants d'inspiration, il trouve son poème imparfait. Il se dit que, peut-être, il aurait dû connaître ces lieux de Grèce et d'Asie, d'où part et où touche son odyssée latine. Il décide d'y aller. Il songe à y rester 3 ans pendant lesquels il corrigera et améliorera le poème en se promenant sur les vraies terrasses, en écrasant du pied la vraie histoire des vraies mosaïques. Bref, il veut connaître le rythme natif des pays rouges d'où son héros est sorti. Il se dit qu'après ça, il consacrera le reste de sa vie à la philosophie.
Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et cet extrait de Virgile ou les palais de l'Atlantide de Jean Giono, lu par Jean-Louis Jacopin, Frédéric Boyer. Que savez-vous de l'écriture de l'Énéide? Est-ce que ce que dit ici Giono, ce qu'écrivait Giono, vous semble juste ou au moins probable?
Oui, oui. Alors après, bon, ce qui est important, c'est ce qu'il rappelle en fait quand il dit qu'il dictait, c'est que la littérature commence dans un acte oral, voilà, et même sa destination, même si elle est écrite, c'est l'oralité, puisque ce qui est écrit pour être lu, et qu'il faut savoir qu'à l'époque, tout passait par la parole, par l'oralité, beaucoup plus que par l'écriture.
Cette idée qu'il serait allé en Grèce, justement, pour capter quelque chose de cette Grèce antique.
Il est allé en Grèce, effectivement. Donc, ce qui est beau, là, dans ce qui est dit, même si c'est peut-être un peu légendé, mais ce qui est beau, c'est ce que disait Andrea aussi, c'est-à-dire que il va essayer de travailler sur quelque chose de neuf, quand même. Il y a ce souci, je sais pas si c'est vrai, mais c'est assez beau d'y penser. Ce souci presque de vraisemblance, presque romanesque. C'est-à-dire, je vais aller en Grèce, pour aller voir ce qui commençait et trouver source d'inspiration. Mais c'est presque un geste, entre guillemets, moderne, hein. C'est assez intéressant.
Et pourquoi, selon vous, Andrea Marcolongo s'intéresse-t-il précisément au personnage de Aîné qui, vous semble, vous le disiez au début de cette émission, parfois un petit peu fade, moins vigoureux, moins vaillant, c'est moins un héros au fond que d'autres personnages de Homère. Et pourtant c'est celui qui le retient alors qu'il s'agit quand même de faire un grand geste pour fonder un imaginaire d'une nouvelle nation.
Oui, tout à fait. La chiffre héroïque, je dirais, d'Aîné est complètement différente par rapport aux grands héros d'Homère. Aîné, il est un héros humain, exactement comme nous, qu'il souffre, qu'il tombe, qu'il n'a pas... On le voit déjà à partir de son épithète. Aîné est l'héros pieux.
C'est ce qui le caractérise d'abord, c'est qu'il est pieux.
Il est pieux, c'est-à-dire, moi ça m'a, j'ai toujours eu beaucoup du mal à comprendre comment un héros peut être pieux. Aujourd'hui on parlait d'un super-héros, Disney on dirait jamais, il est fort parce qu'il est pieux.
ce serait son super-pouvoir.
Voilà, mais effectivement c'est ça le super-pouvoir d'Aîné. Pieux, ça n'a rien à voir avec, une conception religieuse. Ce n'est pas parce qu'il prie qu'il arrive à fonder Rome, mais c'est parce qu'il est toujours fidèle, fidèle à soi-même, fidèle à ses valeurs à lui, et fidèle à sa propre conviction qu'il arrivera à fonder Rome. Il ne connaît même pas la route. Il y a une scène qui parfois ça m'a fait sourire, mais c'est un sourire d'amertume. Dans le troisième chant, Aîné, il part, il a trois derrière lui, sa ville et sa vie perdue dans les flammes. Il demande au dieu de lui montrer la route, à lui, à son navire, et en toute réponse, une vague encore plus grande s'abat sur les navires. Mm-hmm. Mais même pas dans ces cas-là, Aîné hésite. Il ne sait pas comment il va arriver au but, mais il sait qu'il arrivera. Moi, j'utilise parfois une métaphore qui n'est pas du tout ni classique ni poétique, c'est la métaphore d'un match de foot. Quand on allume la télé, on ne cherche pas la surprise de qu'est-ce que ça va passer. On sait déjà qu'une équipe va gagner, l'autre va perdre. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est comment quelqu'un va gagner et comment on va perdre. Et ça, c'est l'histoire vraiment d'Aîné.
Donc ce personnage de Aîné, Frédéric Boyer, ça n'est pas le grand chef de guerre que l'on attendait d'une certaine manière. Ça fait penser à un autre personnage qui va arriver peu d'années après et qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pareil, c'est pas le grand chef de guerre qu'on nous avait promis et pourtant c'est lui qui fonde une nouvelle religion. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire ?
C'est osé, c'est bien. Non, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelque chose se passe, dans ce texte, où effectivement, en partant d'une inspiration épique et vraiment archaïque même, il est en train de créer ce qui sera le milieu littéraire européen dans les siècles qui viennent. Voilà, avec un héros, Aîné et l'Énéide, ça ressemblera ressemble déjà plus à ce qui va suivre qu'à Homère.
Ça, donc ils fondent Rome, mais ils fondent aussi la littérature européenne.
Je pense qu'il pas rien. C'est un acte de fondation de la littérature occidentale des siècles qui.
En quoi précisément, parce que c'est un personnage qui n'est pas fonde, habituel.
D'abord, il réinvente le personnage du héros. Effectivement, comme le dit très bien Andrea, c'est-à-dire c'est quelqu'un de personnel. C'est quelqu'un qui n'incarne plus quelque chose de peut-être seulement mythologique et de seulement ou qui est soumis à des forces mythologiques. Il a une intériorité qui est extrêmement
développée.
Il a une personnalité, une intériorité, et surtout c'est l'invention. Il y a eu déjà des choses avant, mais enfin on va dire ça comme ça un peu brutalement. C'est l'invention du personnage initiatique. Quoi. C'est l'épopée se mue en initiation à la fois personnelle et collective aussi, mais et ça va marquer tout l'Occident européen.
Andrea Marcolongo.
Il y a une très belle métaphore avec laquelle Virgile décrit Aîné. Il n'y a aucune description physique. Plus ou moins, on sait qu'Aîné, il est beau, mais comme tous les héros.
Vous dites qu'il ressemble un petit peu à un fantôme. On ne voit pas très bien qui il est.
Voilà, physiquement, on ne le voit pas très bien. Mais la Virgile, il nous raconte que sa personnalité. On a l'impression que le monde intérieur d'Aîné soit très, très vaste, très grand. Quand il nous dit que Aîné, il a la même résistance d'un chêne. Pendant la tempête.
Pendant la tempête.
Voilà, ses racines sont très, très profondes, très, très fortes, très, très solides. Et ça, c'est vraiment la chiffre d'Aîné. Après, il n'est même pas un héros si faible, parce qu'il ne faut pas oublier comment ça termine, l'Aîné. J'espère que ça passe pas un spoiler pour.
Donnez-nous la fin, c'est pas grave, les auditeurs qui ne souhaitent pas entendre la fin se bouchent les oreilles.
Écouter à ces moments. Bref, à la fin, c'est Aîné qui a été, comment on peut dire, pieux, mais c'est-à-dire sérieux, je dirais, pendant tous les poèmes, à la fin, c'est lui qui va tuer Tournon, c'est-à-dire le chef de guerre qui rencontre l'acte de son geste très, très, très puissant, très, moi je dirais, très homérique. Voilà. C'est une espèce de rage.
Très violent, alors aussi.
Très violent, qui est finalement Aîné libère. Et là, c'est la fondation de la littérature, moi je dirais, européenne, et même de notre caractère de la Méditerranée. Aîné n'est plus grec, il n'est pas encore italien, il est vraiment méditerranéen.
Est-ce que vous ressentez ça, peut-être en Italie, encore davantage qu'en France, cette culture virgilienne? Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de où on la verrait encore aujourd'hui?
Surtout pas, c'est plutôt l'inverse. Je parlais l'autre soirée quand je présentais ce livre. Nous, les Italiens, on a une espèce de complexe. Peut-être que c'est le complexe du père par rapport à Virgile. Presque personne dirait qu'Aîné, c'est l'héros, surtout pas l'héros fondateur d'Italie. Et alors là, je ne sais pas, on a presque du mal à s'identifier avec Aîné. Ça démontre vraiment combien on est proche à lui. Puis il y a toute la mythologie qui s'est créée autour de Virgile. À partir de toutes les interprétations chrétiennes de l'Énéide, où on pensait de le lire comme si c'était un évangile, jusqu'à les légendes d'Alchimie qui sont nées et montées à Naples, qui l'ont fait vraiment de Virgile une espèce de magicien.
Alors si c'est un personnage un peu nouveau dans la littérature qui fonde peut-être une nouvelle littérature, c'est peut-être aussi parce qu'il tombe amoureux. Extrait de l'Énéide, livre 4, lu par Christophe Brault.
Mais la reine, déjà du mal d'amour blessée, se meurt du feu secret qui dévore ses veines. La valeur du héros, la gloire de sa race, se présente sans cesse à son cœur inquiet, où demeurent gravés ses traits et ses discours. Son mal ne lui permet ni calme ni repos. Le lendemain, l'aurore illuminait la terre du flambeau de Phébus. Elle avait dissipé l'ombre humide du ciel, quand la reine éperdue dit ces mots à sa sœur, la moitié de son âme. « Anna, ma sœur, quel songe angoissant m'épouvante. Quel hôte sans pareil a franchi notre seuil. Quel visage est le sien. Quel héros, quels exploits. Nul doute qu'il ne soit de la race des dieux. La frayeur manifeste une basse naissance. Hélas, de quel destin il est persécuté. De quel rude combat il a fait le récit. si je n'avais au cœur l'immuable dessein de ne point consentir au lien conjugal depuis que le trépas a trompé l'espérance de mon premier amour, si je n'avais horreur des torches de l'hymen et du lit nuptial, c'est peut-être à lui seul que j'aurais succombé.
Aîné tombe amoureux, mais Didon aussi, on vient de l'entendre, Frédéric Boyer. Qu'est-ce que ça signifie, cette histoire d'amour étrange entre Didon et Aîné, selon vous?
Non, mais évidemment, ça donne... ça vient donner du grain à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que... par exemple, on n'a pas quelque chose comme ça dans l'Odyssée. C'est une autre histoire de toute façon, mais c'est pas, puisque là on a véritablement l'expression, on l'a entendu là, on a véritablement l'expression d'un sentiment intérieur amoureux qui va à la fois contrer et déterminer un peu la singularité du héros, quoi. Ça c'est la trajectoire du héros. Doit passer par cette entre guillemets cette espèce d'épreuve là qui est une épreuve intérieure sentimentale très forte et qui va donner à l'épopée une autre tessiture, en fait, une autre texture qui est beaucoup.
Mais ça devient une étape de l'épopée, et simplement une étape, un petit peu comme si c'était une métaphore, oui, de la vie, et que Virgile nous disait, voilà, l'amour c'est une étape, l'amour se fait, se défait.
Oui, bah, c'est ce qu'il dit aussi dans les Géorgiques, d'ailleurs, effectivement. Oui, c'est quelque chose à traverser comme une épreuve, puisque c'était conçu, et on le retrouvera après dans toute l'Europe médiévale, hein, cette notion de... La notion de l'éros comme une épreuve humaine à traverser, un peu comme une épreuve de à la fois initiatique et de valorisation. Enfin, c'est quelque chose d'assez intéressant.
Andrea Marcolongo.
Oui, et tout d'abord, c'est la peine de souligner que c'est l'épisode de Didon, ce n'est pas original de Virgile, mais c'est Virgile qui décide de consacrer une telle ampleur dans l'épopée de Aîné. Oui, c'est un amour étrange, c'est un amour même, moi je dirais, fou.
Pourquoi fou?
Parce que c'est d'abord un vrai amour, donc ce n'est pas simplement une séduction. Aîné ne cherche pas un Didon, ni de l'aide, ni encore une fois des richesses. C'est un vrai amour. Mais finalement, jusqu'à la fin, que ça termine dans une façon très violente. Bah, Didon, il se suicide, il se jette sur l'épée, que c'est une façon de se suicider très violente. Et pour l'époque, réservée aux hommes. C'était les hommes qui, au cas de Jesse Scream, se suicidaient, se jetant sur l'épée. Les femmes plutôt s'épandaient. Alors, ça se voit là que Virgile veut nous dire quelque chose. Il y a, ce sont des vers très denses, des vers très poétiques, très, moi je dirais, très profondes. Et c'est vrai que, si même à Homère, dans l'Odyssée, il y a plein d'histoires d'amour, de séduction, mais ça reste un peu à la surface. Là.
Qu'est-ce qu'il voudrait nous dire, selon vous?
Voilà, j'aimerais bien le savoir avec certitude, mais je vois vraiment, comme disait Frank Bouillet, que l'amour c'est une épreuve, et de l'autre façon que, voilà, Aîné, on peut même pas s'opposer au destin, au fatum, encore une fois l'inéluctable. Aîné, il ne part pas parce qu'il n'aime pas Didon, mais parce qu'il doit partir. Il est presque obligé à partir. Et alors là, le geste, le suicide de Didon, ça a plutôt l'impression de qui n'arrive pas, il n'est pas disponible à accepter son destin. Qu'il face à l'inéluctable, il dit non.
On peut penser l'Énéide, toute l'Énéide, comme un grand texte de médiation entre le monde grec et le monde chrétien, particulièrement entre Homère et Dante. Et le sixième livre de l'Énéide, c'est le livre exemplaire de ce point de vue. On a ainsi une sorte de grand mythe de l'Occident dans trois phases fondamentales de sa culture, ce qu'on appelle la neikuia, la rencontre avec les morts, dans des formes qui sont dans le même temps énormément différentes et avec des liens très stricts. Pour ainsi dire, on peut lire Virgile en voyant toujours en filigrane la présence des textes d'Homère, on peut lire Dante en voyant toujours en transparence la présence de Virgile. C'est toujours une sorte de réécriture montée tout le temps sur un système d'allusions. des références. On dirait presque des traductions. Mais traduction, ça ne veut dire pas reprendre des mots seulement ou des images, mais les récomposer avec des significations différentes, très souvent contradictoires.
Le poète et écrivain italien Eduardo Sanguinetti dans cette archive de 1985, Frédéric Boyer. Il y a donc un pont que Virgile fait entre l'Iliade et l'Odyssée d'un côté, le monde grec, et puis Dante, le monde chrétien. Il y a d'ailleurs un personnage dans la Divine Comédie qui s'appelle, qui est Virgile.
C'est bien le personnage avec Dante lui-même, c'est le personnage le plus important, parce que c'est lui. C'est à lui, Virgile, que Béatrice confie la tâche de d'accompagner Dante dans ce voyage initiatique, de traverser les enfers, le purgatoire.
C'est à chaque fois un nouveau voyage.
Et c'est un voyage, effectivement, un peu bon. Donc effectivement, il est devenu ce personnage de l'Occident chrétien qui va devenir très important. Mais le pont, c'est pas Virgile qui le fait, c'est nous qui l'avons fait. C'est-à-dire, c'est que, et ça rejoint toute la discussion qu'on vient d'avoir, c'est-à-dire que l'Europe chrétienne va être fascinée par ce texte et va en quelque sorte l'accaparer, enfin, et l'accaparer, l'interpréter, le traduire au sens que Sanguinetti donne à ce mot, c'est-à-dire non seulement traduire les mots et la langue, mais s'emparer du texte autre dans sa propre langue pour l'interpréter, quitte même à être en contradiction avec l'œuvre originale.
Pour l'actualiser.
C'est pour l'actualiser et pour trouver réactiver des symboles en quelque sorte.
Voilà. Andrea Marcolongo, sur cette question.
Oui, mais surtout après moi, en tant qu'Italien, de lire Dante dans sa langue, que c'est ma langue, et de découvrir, ça, je ne dirais pas sa dette, mais le lien si entre Dante, la poésie de Dante et Virgile, c'est franchement étonnant.
Qu'est-ce que vous voyez comme lien?
On voit exactement comme disait Sanguinetti, là, lire Dante après avoir lu le chant 6 de Virgile, vraiment, on a la même impression de ce qu'on rapproche à Virgile par rapport à Homère. Et alors, on voit vraiment dans le petit scène, il y a plein de topoi, des images littéraires qui viennent directement de Virgile. Là, quand les âmes des morts, qui sont évidemment sans poids, et alors quand Dante, il monte sur le petit navire qui l'amènera après à traverser l'enfer, et alors le bateau, il tombe un tout petit peu sous son poids. Voilà, là, c'est une image vraiment virgilienne. Mais on voit, en général, moi, je dirais qu'on voit vraiment le chemin de la littérature européenne qui arrive finalement jusqu'à nous, en passant par Baudelaire, qui était un grand fan de Virgile, je sais pas, jusqu'à aujourd'hui.
Et parmi les écrivains européens d'aujourd'hui, Frédéric Boyer, est-ce que vous en voyez beaucoup qui semblent des héritiers de Virgile?
Oh, c'est compliqué aujourd'hui. D'abord, parce que je pense que, hélas, les grands textes de l'Antiquité, comme ça, dans la littérature très contemporaine, hein, je veux dire, la littérature actuelle, bon, sont pas toujours sollicités, sont de moins en moins sollicités.
Mais est-ce qu'ils existent à l'état homéopathique, même si par des lecteurs...
Si, oui, ils existent. Ils existent. Mais l'acte, c'est... Les deux livres, là, nos deux livres en témoignent, d'une certaine façon. Ce qui est important, c'est de souhaiter qu'on puisse toujours relire ces textes, et effectivement, comme vous disiez, les actualiser pour notre propre souci, quoi.
Merci beaucoup à vous deux d'être venus aujourd'hui nous parler de Virgile et puis nous raconter en quoi il est porteur de beaucoup d'espoir. Andrea Marcolongo, je renvoie à votre livre « L'art de résister, comment l'Énéide nous apprend à traverser une crise ». Il est publié chez Gallimard. Et toujours chez Gallimard, votre retraduction des Géorgiques, Frédéric Boyer, sous le titre « Le souci de la Terre » date de 2019. C'était Sans oser le demander, une émission bien évidemment que vous pouvez retrouver en podcast sur l'appli Radio France ou directement en streaming sur franceculture.fr.